Bonjour. Avant de commencer, je tenais à vous informer que cet épisode a été enregistré à distance et non en face à face comme je procède habituellement. Le rendu sonore sera donc quelque peu différent cette fois. Si vous êtes une auditrice ou un auditeur régulier du podcast, vous savez qu'un autre épisode a déjà été enregistré de la sorte. L'épisode 8 avec Jean-Pierre, qui racontait son road trip entre le Canada et la Nouvelle-Orléans. Pour cet épisode, Lorraine a eu la gentillesse de me contacter et de me proposer son récit qui m'a tout de suite intéressé et que j'ai voulu partager avec vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Et maintenant, place à Lorraine.
Je m'appelle Lorraine Pasquet, j'ai 23 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter le voyage que j'ai réalisé avec ma famille en 2008-2009 en camping-car pendant 9 mois autour de la mer Méditerranée. Ce voyage, c'était avant tout l'occasion de prendre le temps de faire les choses, de passer du temps ensemble, tous les 5, mais aussi tous les 3 avec mon petit frère et ma petite sœur, et mes parents tous les 2.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Lorraine nous raconte son tour du bassin méditerranéen en famille dans un camping-car. Avec elle, on a parlé de transmission, de l'alchimiste et des printemps arabes.
C'est Bourlinguer à travers le monde.
Nous sommes donc une famille de 5. À l'époque, en 2008, mon petit frère Elliot a 6 ans, ma sœur Inès a 9 ans, et j'ai moi-même 12 ans. Mon papa Arnaud est DRH dans une boîte de transport, et ma mère Christy est enseignante d'anglais dans un lycée. Donc ils ont tous les deux pris une année sabbatique, ce qui était plutôt pratique. De notre côté, évidemment, ce sont des années où on est scolarisé, donc il a fallu prendre une grosse décision. Est-ce que on fait l'école à la maison? Ou alors, est-ce qu'on utilise une organisation comme le CNED qui propose un enseignement à distance? Après plusieurs études, on a pris la décision de gérer ça tout seul, notamment parce que ma mère, qui est enseignante, est super pédago et elle allait gérer ça comme une championne. Donc mon petit frère, lui, était en CP, donc ça signifie apprendre à lire, à compter, à écrire. Ça, c'était pas trop dur parce qu'on avait donc chercher des bouquins bien appropriés, on a choisi les meilleurs, ceux qui convenaient bien. Pour ma sœur, c'était l'année du CM1, donc ce qui est assez compliqué parce que c'est une année charnière. Donc, après avoir discuté avec les enseignants, on a réalisé qu'il fallait quand même bosser sur pas mal de matières pour qu'elles soient bien à jour lorsqu'on rentrerait. Et de mon côté, j'étais en 5e. Et après avoir discuté avec les différents professeurs de chaque matière, on a réalisé que pour mon entrée en 4e, les matières qui allaient vraiment être indispensables, c'était les mathématiques, l'anglais, donc ce qui était facile puisque ma mère est prof d'anglais. Et pour le reste, il s'avérait que le parcours que l'on allait réaliser était vraiment similaire à tout le cours d'histoire et de géographie qui était réalisé en 5e, donc c'était vraiment idéal. Voilà, pour tout ce qui était la scolarité, c'est comme ça qu'on a choisi de le gérer à notre départ. Après, il y a un autre petit élément dans ma famille qui a sûrement poussé mes parents aussi à réaliser ce voyage et à donner un peu le coup de pied au cul qu'il faut souvent pour réaliser ses rêves plutôt que de les garder comme une belle image. C'est que ma petite sœur, donc Inès, a la mucoviscidose. Évidemment, ça pousse à réaliser des grands projets, d'avoir un enfant comme ça qui a une maladie, mais n'empêche que ça amène aussi pas mal de complications évidemment parce que cette maladie demande beaucoup de traitements, des médocs, plein d'ordonnances et puis stocker tous ces médicaments évidemment pour plusieurs mois. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le bazar que ça amène, mais on a géré. Pour ce qui était de la préparation, finalement ça n'a pas pris si longtemps que ça parce que partir 9 mois c'est pas comme partir 3 semaines où on peut planifier, où on réfléchit à tous les endroits où on va aller. Mais là, on parle de 15 pays à peu près. On peut pas perdre de temps à faire ça. Et puis, on avait choisi plutôt de laisser aller et puis voir ce qui allait se passer en fonction de nos rencontres, au jour le jour, ce qui nous plaisait. Évidemment, mes parents ont passé pas mal de temps pour gérer tout ce qui était passeport et les visas, qui étaient quand même un gros chapitre, parce qu'on a traversé des pays comme la Libye, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, qui sont pas forcément faciles d'accès pour les touristes, donc ça il fallait le gérer en amont. Pour ce qui était du budget, parce que mine de rien, ça demande un sacré budget de partir avec 3 enfants à 5 comme ça pendant 9 mois sans avoir de revenus. On a eu pas mal de chance. Évidemment, mes parents avaient mis de l'argent de côté et puis il s'est avéré qu'ils avaient de côté des stock options qu'ils ont réussi à vendre. Ça s'est fait vraiment de manière assez incroyable parce qu'on partait en 2008 et on a vendu nos stock options le jour de notre départ en voyage, donc qui était le 15 septembre 2008. Et c'est vraiment à ce moment-là que tout a dégringolé au niveau de la crise et de la situation financière. Donc ça a vraiment été un coup de chance. Pour ce qui est du camping-car, nous avions notre camping-car qui devait faire 10 mètres carrés à peu près. C'est vrai qu'un camping-car, ça offre évidemment beaucoup de liberté, un petit budget parce qu'il n'y a pas d'hôtel tous les soirs, et une autonomie qui est vraiment géniale évidemment, qui permet de se garer où on veut et de rester autant de temps qu'on veut. Il a fallu qu'on fasse pas mal de modifications évidemment, parce qu'à 5 pendant 9 mois, il faut stocker pas mal de choses, donc je vous laisse imaginer les habits pour toutes les saisons, l'emplacement pour tous les bouquins scolaires, plein de carnets, donc tout ça nous prenait tout un placard. Donc on avait décidé d'abandonner notre douche, qu'on a transformé en placard pour pouvoir pendre tous nos vêtements et un emplacement pour les chaussures en dessous. Il a fallu sacrifier la douche, mais bon, quand on est 3 petits enfants comme ça, on n'a pas non plus besoin de se doucher tous les jours, et puis on avait bien pris l'habitude de sauter la douche tous les 3 jours. Alors évidemment, dans un tout petit espace comme ça, on n'a pas chacun sa chambre. La chambre était réduite à notre lit. Moi, j'étais dans un lit à étage avec ma petite sœur. J'étais en haut, donc mon lit faisait, j'essaie de me souvenir, je pense que ça devait faire 50 cm de largeur et peut-être 1,60 m de long. Je me souviens qu'en rentrant, quand on était sur le retour, si je tendais ma pointe des pieds, je pouvais toucher le bout de mon lit. Donc il était vraiment temps qu'on fasse ce voyage et qu'on n'attende pas que je sois un peu plus âgée. Donc ces petits espaces, ça c'était le mien, ma sœur avait le sien en dessous, et mon petit frère qui était vraiment petit, on est tous les trois des petits gabarits, se mettait en travers sur la banquette, et c'était son petit coin à lui. Donc évidemment, quand on part comme ça pendant aussi longtemps, on a envie d'emmener des petits objets quand on est enfant, des photos de nos amis. Je me souviens vraiment de prendre le temps comme ça, de choisir quel objet j'allais emmener, quelle photo j'allais accrocher au-dessus de ma tête pour créer mon petit coin d'intimité. Avec tout ce qu'on avait emmené, il nous a fallu aussi qu'on ajoute 3 coffres de toit. Donc un qui était vraiment réservé aux médicaments pour Inès, un autre pour stocker plein de choses comme des chaises, on avait une tente et puis tous les vêtements d'hiver, et un troisième qui était vraiment gros, puisque mon père est absolument passionné de planche à voile, donc il avait fait fabriquer un coffre de toit qui ressemblait plutôt à un cercueil, dans lequel il y avait plein de voiles et de planches pour qu'il puisse faire de la planche à voile tout au long du périple. Voilà pour ce qui est un peu du contexte et de la planification du voyage. Nous sommes le 15 septembre 2008 et nous quittons la rue des Abeilles à Cavaillon, où j'ai grandi. Je me souviens de ce sentiment assez fort, évidemment, de quitter notre maison, notre ville, nos amis, pour 9 mois. Et puis, le choix de la première musique, parmi les peut-être 10 ou 15 CD qu'on avait sélectionnés, évidemment, parce qu'on n'était pas super à jour sur les MP3. On avait dû faire notre petite sélection. Et puis, on a longé la côte sud de la France pour commencer par l'Espagne, où on était rejoint par mes grands-parents et mon oncle et ma tante, qui avaient un autre camping-car, pour traverser toute la côte nord de l'Espagne jusqu'en Galice, pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc toute cette partie du voyage, c'était assez peu déconcertant. On avait déjà voyagé en Espagne, mais c'était quand même de superbes paysages dans toute cette région. Une fois traversé, on passe cette fois au Portugal et on se dirige vers Lisbonne. Donc là, cette première vraiment grande ville où on se retrouve. Donc évidemment, tout de suite, la logistique de où dormir. Et là, par chance, vraiment, on trouve le quartier de Belém, qui est au bord du Tage, où il y a un parking gratuit qui est ouvert au camping-car. Donc ça, c'est vraiment les joies de l'autonomie. On se retrouve comme ça, vraiment proche du centre-ville, idéalement placé. Et puis, les berges du Tage, qui permettent aussi, notamment le matin à ma sœur et mon père d'aller courir, puisque Inès doit faire des séances de kiné le matin pour pouvoir respirer mieux pendant la journée. Voilà, je me souviens bien de ces nuits au bord du Tage. Et donc Lisbonne, quand on faisait toutes ces visites comme ça de grande ville, il faut évidemment que ça plaise à tout le monde. Et donc quand on a 3 petits-enfants de 6, 9 et 12 ans, bah, il faut faire des choses ludiques. Ma mère était toujours au top grâce aux tous les guides qu'on avait et les recherches qu'elle faisait au fur et à mesure. On finissait toujours par faire des choses vraiment intéressantes. Notamment à Lisbonne, je me souviens bien du pavillon des connaissances qui datait de l'Expo universelle de 1998 qui avait eu lieu à Lisbonne. Donc cette visite de la Cité des Sciences donne vraiment le ton à cette année, puisque toute nouvelle visite, toute découverte devient un petit sujet d'exposé, une présentation. Ma mère crée tout le temps des sujets vraiment géniaux avec toute sa pédagogie pour nous tenir en éveil et pour apporter des connaissances, les mettre en lien. Donc ça vraiment c'était quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure de notre voyage. Donc une fois traversé le Portugal, on arrive à Séville, donc là une autre grande ville, et quelque chose qui m'a marqué tout de suite, c'était que on se retrouve dans ces campings hors saison, et donc on est là vraiment tout le temps la seule famille au milieu des camping-caristes retraités, et ça c'était vraiment quelque chose qui s'est retrouvé tout au long du voyage, d'être les seuls enfants dans les campings, dans les villes, les seuls touristes en famille. En continuant notre petit périple, on se retrouve à Tarifa, qui est la ville la plus au sud de l'Espagne, où on reste ici pendant une dizaine de jours de manière un peu plus sédentaire, pour permettre à la fois à mon père de faire la planche à voile, et nous, de notre côté, avec ma mère, on consacre ces quelques jours à vraiment un mode un peu plus scolaire. On met presque le réveil, et puis on a des séquences de travail, et puis des récrés. On construit plein de cabanes. C'est vraiment une année qui nous a permis de développer comme ça toute une forme de créativité qui est vraiment typique de l'enfance où on se met à inventer des jeux avec n'importe quoi. Et je trouve qu'elle est mise de côté, hélas, avec maintenant les écrans où on perd cette forme de créativité et qui, là, s'est vraiment développée pendant cette année. J'ai vraiment des souvenirs de trouver n'importe quoi et de créer des chariots, créer des calèches, des cabanes à étages, tout pouvait potentiellement être un jeu parfait. Donc après Tarifa, là ça marque vraiment une étape de notre voyage puisqu'on quitte l'Europe. Et je me souviens comme ça que ça faisait assez drôle de traverser le détroit de Gibraltar et de voir le Maroc arriver. Et là c'est quand même le choc culturel parce que quand on a 6, 9 et 12 ans et qu'on vit en Europe, on n'imagine pas forcément ce que c'est que de l'autre côté de la mer Méditerranée, hormis les images qu'on trouve à la télé. Je me souviens tout de suite, là, à notre arrivée à Fès, de se balader dans les ruelles du souk et de voir une école avec des enfants où il n'y a aucune fenêtre ou porte, tout le monde a ses gros manteaux, sans bureau, rien pour écrire ou noter quoi que ce soit, et c'est une petite école comme ça. Je me souviens, du haut de mes 12 ans, d'avoir quand même une certaine prise de conscience et de me dire, putain, on a de la chance quand même. Et ça, c'était vraiment 3 jours après... Peut-être même le premier jour en arrivant au Maroc, d'avoir comme ça une étape mentale, personnelle, qui m'a fait réaliser la chance qu'on a. Donc au Maroc, on traverse pas mal de villes, notamment Moulay Idriss, Meknès, Rabat, Casablanca, Marrakech. Et ça a été vraiment la première étape de ces pays du Maghreb. Au fur et à mesure de nos visites, je me souviens, on prenait pas mal de notes. Ma mère nous encourageait pas mal à faire des dessins, à prendre des notes. Et puis, ça servait après pour faire des exposés qu'on mettait en forme chacun de notre côté, à nos différents niveaux, avec différentes quantités de détails. Et puis, une fois mis en forme, on les envoyait à nos classes, respectivement, et notamment Inès et Elliot qui étaient en école primaire, pour leur classe en France, en parlant de la religion musulmane, de tout ce qu'on avait découvert, l'appel à la prière, le muezzin, l'islam, les mosquées. Et donc qui créait un vrai échange culturel qui servait à la fois pour nous, qui nous apprenait comme ça à mettre des connaissances et des informations en forme, et aussi pour nos classes qui recevaient ça et à qui ça permettait de suivre un petit peu notre périple et puis de découvrir ce qu'on découvrait de notre côté. En parlant d'hébergement et de camping... À Casa, je me souviens, là, c'était encore une autre version, puisqu'on se retrouve à dormir sur le boulevard Zarktouni, qui est vraiment en plein centre de Casa. Et puis on s'est retrouvés à dormir là, sur le bord de la rue et d'avoir toute la nuit ces 2x4 voies non-stop, ça c'est un sacré souvenir. Une fois le Maroc terminé, hélas on ne peut pas aller en Algérie, la frontière est fermée à cette époque. Et donc on fait le choix de contourner le pays, aussi pour des raisons de sécurité, hélas, et j'espère vraiment pouvoir y retourner dans les années à venir. Donc là on fait le choix de traverser pour aller directement en Tunisie, et donc on se retrouve sur un bateau le 8 décembre, donc qui s'avère être la veille de l'Aïd, donc qui est la fête du mouton au Maroc, et donc on est à bord de ce bateau immense, on est peut-être 50 à bord, puisque tout le monde célèbre cette fête, et finalement il y a plus de personnel que de voyageurs à bord de ce bateau. Où on arrive à Tunis, et là, à ce moment-là, on est au mois de décembre. La Tunisie, on a eu une super belle rencontre là-bas, vraiment un pur hasard. Lorsqu'on a passé donc quelques jours à Tunis, on dormait sur le parking du ministère de l'Intérieur. On se gare et puis on voit qu'il y avait un autre camping-car garé pas très loin. On était vraiment les deux seuls camping-cars, évidemment. Donc on est évidemment curieux, un autre camping-car, on se demande qui sont ces autres personnes. Et là on aperçoit des petites têtes à la fenêtre. Alors ça c'est assez étonnant évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, à cette période il n'y a vraiment que des retraités. Alors là le fait de voir une famille, ça cloche un peu, c'est bizarre. C'est des gens bizarres on se dit. Et puis il s'avère qu'ils sont français, et donc cette famille c'est la famille Charrier de Nantes, qui sont aujourd'hui de très bons amis. Et alors cette famille de 5 comme nous, qui ont des enfants aux âges vraiment proches, fait le même voyage que nous, le tour de la mer Méditerranée aussi, tous les 5 en camping-car, en 6 mois, mais eux ils l'ont fait dans l'autre sens. Et donc par le plus grand des hasards, on se rencontre, on décide tout de suite d'aller au restaurant tous les 10, et on s'entend super bien, et puis on finit par passer les quelques jours suivants ensemble. Et donc ça a été un moment vraiment... vraiment aussi riche pour nous, puisqu'il venait de faire tous les pays qu'on allait traverser, et il venait notamment de la Libye, qui est une sacrée étape et un pays qui est difficile à traverser. Donc il nous passe toutes ces infos, pas mal de guides aussi, de guides touristiques qu'on utilisait beaucoup. Et puis on se dit au revoir parce qu'ils étaient sur la fin de leur voyage. Et de notre côté, on continue. Et donc là, la Libye, il a fallu qu'on fasse une demande de visa qui a pris beaucoup de temps pour arriver. On l'a finalement reçue à Tunis. Et donc là, c'est vraiment le début des complications et des pays évidemment moins touristiques qui demandent un peu plus d'organisation. Donc on rentre en Libye avec notre visa de transit. Donc c'est un visa pour un mois dont on a entendu parler grâce à notre rencontre en France cette fois avant le départ avec la famille Dupeloux qui avait eux aussi fait un voyage similaire au nôtre et qui nous explique qu'il nous faut absolument obtenir ce visa de transit puisque sinon ce sera un visa de touriste et c'est vraiment compliqué puisque ça induit que l'on ait un guide touristique avec nous, que l'on doit rémunérer 60 euros par jour, que l'on doit héberger et puisqu'on est une famille de plus de 4 personnes, il faut aussi qu'on ait un policier avec nous qui nous suive. Et puisqu'on n'est pas assuré pour cette personne dans le camping-car, ça veut dire qu'ils nous suivent en taxi. Je vous laisse imaginer évidemment le budget que ceci nous aurait coûté et les complications. Donc grâce à ce visa de transit, ça nous permet d'éviter tout ça. Et c'était vraiment un super filon. Donc cette frontière entre la Tunisie et la Libye nous a pris plus de 5 heures. C'était vraiment vraiment assez éprouvant. Donc nous, on était évidemment jeunes et on pouvait pas faire grand-chose, si ce n'est toujours venir à l'avant du camping-car, mettre notre tête avec notre sourire pour montrer qu'on était des enfants et une famille. Et surtout parce qu'avec les gros coffres de toit qu'on avait, évidemment, ça attire un peu l'attention. Est-ce que c'est pas du trafic de drogue ? Donc voilà, le fait de toujours appeler les enfants à l'avant, ça nous permettait quand même de passer plus facilement. Mais donc ces 5 heures de douane, c'est assurance du véhicule, attribution de plaques d'immatriculation libyenne, donc en arabe. Et là, mon père, il passe des heures à coups de négociation, évidemment avec une communication impossible. Et puis ma mère qui ne pouvait pas aider parce que on rentre dans des pays où la femme est vraiment mise de côté et elle prend pas part à ce genre de négociation. Donc finalement, on arrive à passer la frontière, il est 1:30 et après 3 barrages de police, on arrive finalement à sortir. Et je pense que le fait qu'on ait terminé si tard à 00h30 après des heures de queue et d'embrouille, même les douaniers en avaient marre et donc ils nous ont fait passer. Ce visa, le deal, c'était qu'on traversait sur la côte nord, vraiment de longer la route principale. Donc c'est une côte de 1800 km. Et là, de nouveau, c'est des barrages tous les 30 km. Chaque barrage de police, on se fait arrêter. Et la première question, c'est « Policeman, policeman !» Puisqu'évidemment, ils s'attendent tous à ce qu'on ait un policier et un guide, puisque le peu de touristes qui arrivent en Libye ont des visas de touristes. Donc le guide et le policier. Et là, je me souviens d'entendre mon père dire, répéter tout le temps la même chose avec le moins d'accent possible pour qu'il puisse comprendre « Transit to Egypt, Tripoli, Benghazi, Tobruk, Egypt » de mettre ça en boucle « Transit to Egypt » pour qu'il comprenne qu'on s'arrête pas et qu'on traverse juste pour aller en Égypte. Donc on dit ça en boucle tous les 30 kilomètres. Donc la Libye, c'est un pays où on a rencontré vraiment très peu de touristes. Ce qui est assez incroyable parce qu'il y a vraiment beaucoup de sites antiques grecs qui sont vraiment magnifiques. Vous imaginez ce qu'on trouve à Rome pour lesquels il faut faire des heures de queue et payer une fortune. Là, c'est au bord de l'eau, au bord des eaux turquoises et il n'y a personne et on paye peut-être 30 centimes pour rentrer. C'était vraiment magnifique. Donc là, de nouveau, on prend plein de notes, on fait des dessins et puis on envoie tout ça à nos classes. Au cours de notre traversée de la Libye, c'est vraiment là un grand désert immense avec une route pas encore déminée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des barbelés au bord des routes qui indiquent de ne surtout pas s'arrêter au bord de la route parce qu'il y a des mines qui datent encore de la Seconde Guerre mondiale. Et donc on s'arrête souvent dans les stations d'essence pour passer la nuit. Et là un soir on rencontre Assaïd et son frère et son cousin qui sont des Touaregs du Niger et qui vivent là dans un cube de béton vraiment à côté de la station d'essence. Et ça a été un moment fort, puisqu'on a passé cette soirée avec eux, dans leur bloc de béton, ils nous ont invités pour pas qu'on soit vus par les Libyens, puisqu'ils sont vraiment toujours en train de vérifier tout ce que font Assaïd et son frère et son cousin, puisqu'ils sont du Niger, et donc il y a quand même pas mal de racisme. Et là, le fait d'avoir une famille avec une femme, qui est ma mère, c'est vraiment mal vu. Donc on est un peu caché dans ce bloc de béton et on passe une soirée formidable où ils nous font à manger quelque chose de délicieux et puis on se met tous à danser et à rire puisqu'ils parlent assez bien français. Donc ça a été vraiment un moment merveilleux en plein milieu du désert libyen qui m'a pas mal marqué du haut de mes 12 ans et aussi mon frère et ma sœur. On finit donc par traverser la Libye et c'est 1800 km et on arrive en Égypte. Là, de nouveau, 5 heures à la frontière, où on nous demande plein de frais supplémentaires en cash, évidemment. Et puis, on s'est même retrouvé à pas pouvoir payer parce qu'on avait, mes parents avaient pas assez d'espèces sur eux. Donc, on a mis en commun toutes nos petites économies avec mon petit frère et ma petite sœur pour pouvoir payer tout ce qu'ils nous demandaient et les plaques d'immatriculation et les assurances à la frontière égyptienne. On se retrouve finalement escorté par 3 policiers. Vraiment armés avec leurs mitraillettes à l'arrière de leur pick-up qui nous escortent de jour en jour à travers l'Égypte. Donc c'est soi-disant un ordre qui a été envoyé par le gouvernement français pour tous les touristes en Égypte. Ça s'est passé comme ça et puis ils étaient très sympas. Hein. C'était vraiment pour notre sécurité et super bien organisé avec des changements d'équipe le soir et puis ils dormaient à côté de nous. Mais ça fait quand même assez bizarre au début de se retrouver escorté comme ça dans un pays. Donc on passe quelques temps en Égypte, à Alexandrie, au Caire, où mes grands-parents nous rejoignent. Et puis à travers le Sinaï, un endroit vraiment magnifique, une partie de l'Égypte magnifique. Et puis après le moment des décisions, puisque bien qu'on avait très envie d'aller en Israël et en Palestine, notamment avec ma mère, il a fallu décider de ne pas y aller puisqu'on voulait traverser la Syrie. Et donc, si on avait un tampon dans notre passeport d'Israël, eh ben, c'était impossible de traverser la Syrie. Entre-temps, j'y suis retournée il y a un an pour voyager justement en Israël et en Palestine et faire ce bout du voyage que je n'avais pas encore vu. Donc la Jordanie est un pays vraiment magnifique où on retrouve une certaine forme de civilisation dans le sens où on retrouve des feux rouges, des stops, des routes un peu décentes. Et un moment fort dont je me souviens bien d'être sur le mont Nebo, donc qui surplombe la mer Morte, et de regarder la Palestine en face. Et donc c'est vraiment un endroit où je me suis retrouvée il y a un an de l'autre côté, assise en Palestine sur une colline et regarder le mont Nebo en Jordanie 10 ans après. Donc c'était un moment fort. Donc cette traversée de la Jordanie, on a passé pas mal de temps dans le désert du Wadi Rum, vraiment magnifique. Des superbes souvenirs là-bas, à Petra, et qui vraiment sont des endroits qui sont aujourd'hui désertés par les touristes, comme beaucoup d'endroits où on s'est retrouvés, et notamment en Syrie, où on est arrivé après. On avait droit à seulement 6 jours en Syrie. On ne pouvait pas avoir un visa pour plus longtemps parce qu'il coûtait bien trop cher. Donc on a profité pendant 6 jours, on a notamment vu le krach des chevaliers, la forteresse de Salah ad-Din et Damas. Donc qui sont des lieux qui ont évidemment aujourd'hui, qui tiennent à peine debout. Le krach des chevaliers, j'ai vu récemment des vidéos de combats qui ont eu lieu là-bas. Ça fait vraiment bizarre de voir que c'est un véritable champ de bataille, alors qu'on était là-bas il y a 10 ans, et d'imaginer que plein de gens qu'on a rencontrés sont sûrement décédés depuis. Ça fait quelque chose, c'est sûr. Et puis c'est pas un pays... dans lequel on pourra mettre les pieds avant très longtemps. Donc c'est une grande chance d'avoir visité la Syrie. Pareil pour la Libye, aujourd'hui c'est vraiment impraticable. Déjà à l'époque c'était pas bien facile sous le régime de Kadhafi, mais aujourd'hui c'est même pas imaginable. Donc après la Syrie, on se retrouve en Turquie, donc qui est vraiment un pays immense. Et là on trace pour aller jusqu'à Datça, qui est une ville sur la côte sud, où là de nouveau on fait une pause école, où on s'arrête pendant 2 semaines, avec nos récréations d'une heure et nos soi-disant devoirs. Mais on avance bien quand même chacun de notre côté sur nos matières différentes. J'étais pas mal autonome de mon côté, j'avais mon bouquin de maths, qui était vraiment la matière principale que je suivais. Et donc je suivais vraiment le manuel où on a d'abord les exercices simples, et puis la leçon, puis les exos de plus en plus durs. Et souvent mon prof de français m'envoyait des contrôles que je faisais, et puis on leur envoyait après par la poste. Ces arrêts aussi, comme ça nous permettait d'aller dans des cafés internet, puisqu'à l'époque, on avait un téléphone portable pour nous 5, évidemment, qu'on s'est fait voler. Je sais plus dans quel pays, mais on n'était pas très connectés à l'époque. Donc les cafés internet, on y allait de temps en temps pour pouvoir envoyer des mails, des nouvelles, et puis envoyer et recevoir nos quelques devoirs. Donc ça, c'était Datça en Turquie. On a des amis qui nous rejoignent en Turquie et on finit toute la côte pour aller jusqu'à Izmir. On met de côté Istanbul, où je suis retournée depuis aussi également, parce que à ce moment-là, c'était trop loin. Et faire le tour pour rejoindre la Grèce par le nord nous aurait rajouté 1800 kilomètres. Et à ce moment-là, mine de rien, le temps était commencé à être compté, évidemment, parce qu'il fallait qu'on rentre en France dans peu de temps. Donc on quitte la Turquie. Et je me souviens bien de ce moment d'arriver sur l'île de Chios, donc qui est la première île grecque, où on a un transfert avant de rejoindre le continent lui-même. Et là, je me souviens d'avoir un moment vraiment de folie, notamment avec ma sœur. Ce sentiment de se retrouver en Europe d'un coup, et de se retrouver dans un environnement qu'on connaît, ou des échanges avec les gens qui sont différents, ça nous a rendu un peu fous. Je me souviens, on sautait dans tous les sens, on était joyeux... Il y avait vraiment le sentiment de rentrer à la maison qui, mine de rien, faisait plaisir. Alors qu'on était toujours loin puisqu'on était en Grèce. Donc on atteint finalement Athènes. Donc là, beaucoup de visites culturelles, évidemment. Mes grands-parents nous rejoignent de nouveau. Ça, c'était chouette d'avoir comme ça des amis et de la famille qui nous rejoignaient pendant quelques jours pour nous rejoindre sur notre périple. Ça pouvait être aussi parfois... assez difficile, je me souviens, parce que de passer de notre cocon familial comme ça à 5, où d'un coup on a plus 2 ou plus 4 ou plus 5, et devoir tout gérer en même temps, les énergies de chacun, les envies de chacun, ça pouvait créer parfois un peu des tensions. C'était toujours agréable évidemment, mais notre routine n'était plus la même, le peu de routine qu'on pouvait avoir en voyageant autant et en bougeant tous les jours. Donc après la Grèce, on a fait le choix de nouveau de ne pas passer par tous les Balkans, par manque de temps de nouveau. Et moi j'ai fait ce voyage il y a 3 ans maintenant, tous les pays des Balkans, pour pouvoir compléter petit à petit ce voyage et les pays qui me manquent. Et donc on décide de la Grèce de prendre un bateau pour arriver en Italie, où là, c'est le dernier pays de notre voyage, donc on traverse Naples, Florence, Rome, avant d'arriver bientôt en France. Et on arrive finalement à Cavaillon, notre ville, le 7 juin 2009, après 21 000 km, 14 pays, 265 jours de voyage et plus de 20 000 photos. Un sacré périple, évidemment, à travers l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Jordanie, la Turquie, la Grèce et l'Italie. Voilà. Alors je peux que encourager tous les gens que je rencontre, évidemment, qui se disent « Oh putain, quand on aura des enfants, on pourra plus voyager, il faut le faire maintenant. » Évidemment, c'est un schéma facile à faire. Mais en ayant vécu une telle expérience et en réalisant à quel point ça m'a ouvert l'esprit en étant si jeune sur le monde, sur d'autres cultures et sur les autres perspectives qui sont possibles, pour moi, ça a vraiment été le plus beau cadeau que mes parents nous ont offert, évidemment. Juste d'être loin des écrans et loin du terrain de jeu avec nos amis en France et de se retrouver comme ça de l'autre côté de la mer Méditerranée et de voir ce qui s'y passe de nos yeux et pas seulement à travers les infos, la télé et les films. C'était vraiment évidemment quelque chose de super riche et qui m'a marqué puisque depuis j'arrête pas de voyager et j'ai plein de projets en tête. Et j'espère évidemment, lorsque j'aurai mes enfants, faire un projet comme celui-ci parce que c'est évidemment, ça prend de l'énergie, de l'organisation et évidemment beaucoup de courage pour se lancer dans une telle aventure, mais ça vaut tellement le coup. C'est vraiment un moment magnifique qu'on peut donner à ses enfants et qui crée une complicité immense entre les frères et sœurs et aussi les parents, parce que dans la vie de tous les jours, finalement, c'est pas facile de passer du temps avec ses enfants ou avec ses parents, et le couple aussi d'adultes, prendre le temps de vivre plutôt que de se retrouver seulement le soir après le boulot, d'être crevé, où il y a du coup très peu d'échanges, mais là de vivre des moments comme ça, qui rapprochent dans 10 mètres carrés, mais aussi qui créent une complicité bien différente dans le partage des expériences, des moments difficiles aussi, de gérer des situations compliquées, mais qui font grandir tout le monde et avancer dans l'aventure personnelle et le développement de chaque personne. Voilà.
Merci beaucoup pour ce récit. Alors j'avais une question. Tu mentionnes quand tu arrives au Maroc que tu as une espèce de prise de conscience, une étape mentale qui te fait réaliser à quel point c'est différent là-bas. J'aimerais savoir si tu l'as de nouveau ressenti en voyage ou est-ce que c'était la seule fois ?
La dernière fois que j'ai ressenti ce sentiment, c'est quand je suis arrivée en Israël en avril 2018. J'étais un peu chamboulée parce que je me souvenais de cette région du monde, du Proche-Orient, où j'étais déjà allée, bien évidemment, comme ce que je vous ai raconté. Mais là, c'était vraiment totalement différent. C'était un autre pays, une autre culture, une autre religion, une autre atmosphère. Et il m'a fallu un sacré temps d'adaptation pour réaliser que, oui, c'est cette région du monde que je connais, mais c'est pas la même culture. Et ça m'a fait bizarre parce que je m'attendais pas à ça. Et de nouveau, en quittant Israël pour arriver en Palestine, là, j'ai eu cette même un peu prise de conscience de réaliser que c'était encore autre chose. Mais c'est drôle, j'ai vraiment eu un sentiment de comme si je rentrais à la maison, où d'un coup j'étais à l'aise, contrairement à mon compagnon qui avait jamais mis les pieds dans ces pays du Proche-Orient. Pour moi, il y avait quelque chose de familier qui était assez agréable, alors que en arrivant à Jéricho, c'est une ville en miettes, mais malgré tout, je me sentais bien.
Est-ce que pendant vos 9 mois de voyage, mis à part les dessins et les notes que tu envoyais à ta classe, vous avez gardé des contacts avec la France et quelles étaient leurs natures ?
On a rédigé des journaux de bord et par « on », je veux dire ma mère, qui a vraiment passé énormément de temps pendant chaque pays pour rédiger ces journaux de bord, donc des mails groupés qu'on envoyait à nos amis et à notre famille, qui faisait plusieurs pages où elle racontait ce qu'on avait fait, en joignant des photos pour que ce soit bien agréable à lire pour tout le monde, avec des petites anecdotes du voyage. Donc ça, c'est super riche maintenant, du coup, de pouvoir relire tout ça, et je les ai tous relus un par un avant de venir ici. Et plus personnellement, je me souviens envoyer des cartes postales à chaque pays, à deux de mes amis, qui les ont toujours, aux dernières nouvelles. Voilà, je prenais le temps. Je pouvais pas envoyer à tous mes amis, mais j'en avais sélectionné deux qui recevaient toutes mes cartes postales.
Tu mentionnes à plusieurs reprises dans ton récit avoir voulu terminer ce voyage, notamment en te rendant dans des pays manquants, par exemple les pays des Balkans ou de la Palestine. Je voulais savoir pourquoi et qu'est-ce qui te motivait?
Je pense que j'avais le sentiment de ne pas avoir vraiment complété ce projet qu'on avait et qu'il y avait des parties manquantes. Pour moi, c'est important, vraiment, c'est quelque chose de très personnel, mais c'est important pour moi que j'aille voir ces lieux pour avoir toutes les pièces du puzzle de manière à mieux comprendre ces régions du monde, les conflits qui ont eu lieu dans ces endroits ou qui, encore aujourd'hui, traversent des périodes difficiles. Et il m'en manque encore quelques-uns et j'espère vraiment pouvoir y aller pour pouvoir un petit peu vraiment comprendre au fur et à mesure de si je trace tout mon périple, je peux comprendre un petit peu les différentes crises qu'a traversé chaque pays. Par exemple, les printemps arabes, une des raisons qui me pousse à faire ça, c'est que je suis particulièrement sceptique envers les médias et la quantité d'informations qui est mise à notre disposition en ligne tous les jours, chaque seconde. Et si on ne fait pas ce travail assez méticuleux de recherche, d'analyse des sources, de comparaison, qui prend beaucoup de temps, on, et moi la première, tombe facilement dans des récits qui nous sont donnés, qui sont souvent modifiés, et qui ne prennent en compte qu'une partie vraiment infime, un détail précis d'un grand tableau qui est impossible pour nous de voir, ou encore moins de comprendre. Donc mon voyage en Israël et Palestine était vraiment motivé par ce besoin de voir de mes propres yeux, de rencontrer des Israéliens, des Palestiniens, d'écouter leurs histoires, leurs points de vue, d'écouter les récits qu'eux-mêmes reçoivent évidemment dans leur pays, notamment pendant leur service militaire, mais évidemment par le biais des médias, eux aussi. Donc ça c'est quelque chose qui me motive dans tous ces pays, à y aller pour le voir de mes propres yeux.
Bon alors, après une telle expérience en famille, comment ça s'est passé le retour à la réalité?
C'était super rapide. Je me souviens le jour de notre retour, arrivé dans notre ville à Cavaillon, arrivé dans notre rue et devant la maison. Et le fait de voir qu'il y avait personne, on savait qu'il y allait voir personne, mais malgré tout, je me souviens d'être un peu déçue. J'avais envie d'être que les gens nous serrent dans les bras comme si on venait de traverser un océan à la neige. Ou un sacré exploit. C'était un petit exploit, mais... Et donc, ouais, j'avais envie de cette chaleur humaine ou de retrouvailles qui n'ont pas eu lieu tout de suite, si ce n'est avec notre chat, qui était très content de nous voir. Et puis après, on est arrivé au début de l'été, donc c'était le mois de juin. Donc on est allé voir, pendant vraiment les derniers jours de l'école, on est allé voir nos classes. Et c'était assez drôle, du coup, de ne connaître personne, puisqu'on n'avait pas développé de lien avec nos camarades de classe, entre guillemets. Donc on était comme si on était des nouveaux qui arrivaient le dernier jour de l'année.
Est-ce que vous avez le projet de refaire un voyage un peu similaire en famille dans un camping-car? Dans un camping-car un peu plus grand, j'entends, parce que je suppose que maintenant vous touchez tous le bord du lit avec vos pieds.
Oui, effectivement, on touche bien largement le bout de nos lits. Sachant que ce camping-car, donc on l'a vendu, il me semble, il y a un an, à une famille, une jeune famille avec un enfant, qui sont partis, eux, pour un tour du monde, il me semble, en 2 ans. Donc voilà, notre camping-car est de nouveau sur la route. Et de notre côté, eh bien, individuellement, on a tous nos projets, évidemment. Mais mon frère, ma sœur et moi, on a bien grandi, on a chacun nos envies différentes. Et ça évolue, on a tous plus ou moins envie de vagabonder et de voyager. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir comment on grandit différemment. Et que moi, si j'ai ce besoin constamment d'aller à l'autre bout du monde, c'est pas forcément quelque chose que ma sœur a, par exemple. C'est intéressant, c'est drôle. Mais c'est bien, il faut de tout.
De manière générale, qu'est-ce que tu prendras toujours avec toi dans ton sac?
Depuis ces dernières années, j'ai tout le temps mon appareil photo. Je passe beaucoup de temps à prendre des photos. Et j'ai beaucoup de carnets, tout le temps, avec moi, pour écrire, pour dessiner. Ça dépend vraiment des voyages. Et c'est pareil pour ma manière de documenter mes périples. Ça dépend. Parfois, c'est un journal de bord avec des croquis. Parfois, c'est seulement des photos. En ce moment, j'ai toujours mon enregistreur audio portable avec moi. Et donc là, ça devient des récits sonores. Ou les deux, où je filme. Je passe beaucoup de temps aussi à filmer. Donc ça évolue au fur et à mesure de mes voyages et des lieux où je me trouve aussi, ce qui est plus approprié. Parce que dans certains pays, c'est pas l'appareil photo n'est pas toujours le bienvenu. Et dans ce cas-là, écrire et dessiner, ça, c'est la solution la plus appropriée. Et c'est du coup chouette de pouvoir d'avoir ce côté polyvalent où je peux passer de l'un à l'autre et les uns et les autres se nourrissent et se complètent.
Là maintenant, quels sont tes futurs projets, que ce soit des projets personnels ou des projets liés au voyage ?
Donc je suis en ce moment en Nouvelle-Zélande avec mon compagnon, où on est depuis bientôt un an, et on va encore rester jusqu'au mois de mars probablement, donc encore quelques mois. Et notre idée, notre projet, c'est de voyager après pendant quelques mois avant de rentrer en France. On aimerait relier le Japon à l'Europe, en sélectionnant certains pays, parce qu'on pourra malheureusement pas tout faire, mais donc c'est un petit peu, c'est une partie de la route de la soie dans l'idée, et c'est beaucoup pour faire ces pays qui sont pas forcément les plus simples d'accès, pendant qu'on est encore jeune et on peut s'adapter facilement, parce qu'évidemment j'ai envie de voyager avec mes enfants quand j'en aurai, parce que le cadeau que m'ont offert mes parents, ça a été la chose la plus merveilleuse, donc je ne peux qu'avoir envie d'offrir la même chose à mes enfants. Donc voyager dans certains pays, c'est pas forcément évident, même si mes parents ont quand même prouvé que c'est possible d'aller au fin fond de la Libye, même avec 3 enfants qui ont 6, 9 et 12 ans. Donc ils ont quand même placé la barre assez haute. Mais voilà, donc ça c'est dans le prochain projet. Et ici en Nouvelle-Zélande, je suis en train de travailler sur un gros projet avec des femmes maoris. Et cette exposition qui aura lieu au mois de février parle de l'identité de ces femmes maoris. Et je leur demande ce que ça signifie pour elles, cette identité. Et donc, c'est une exposition sonore et photographique. Et donc, c'est un gros projet qui demande pas mal d'étapes. Et c'est vraiment c'est super riche, évidemment, les rencontres que je fais et tout ce qui en découle. Et c'est le début d'un plus gros projet parce que je veux continuer de faire voyager cette idée. Donc lorsque on va partir voyager l'année prochaine, eh bien, je veux établir la même chose en Inde, qui sera notre prochaine grosse étape. Et au fur et à mesure de mes périples dans le futur, j'aimerais vraiment développer la même chose, travailler avec ces femmes autour du monde pour essayer de comprendre ce que ça signifie d'être femme dans tous ces endroits. Voilà. Et c'est vraiment un projet qui est super nourrissant personnellement et qui est super à faire partager pour que toutes les personnes de la communauté puissent comprendre, homme ou femme, ce que ça signifie d'être une femme aujourd'hui dans différentes parties du monde. Voilà. Et donc ce sera une exposition, ce sera aussi diffusé à la radio en Nouvelle-Zélande sous forme d'émission et sous forme de podcast. Je vais créer une plateforme sur internet pour raconter ces formes de voyage, d'exploration personnelle et aussi communautaire.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien, donc tu as un petit espace à toi qui t'est réservé. Donc si tu as une anecdote, une recommandation ou un proverbe à partager, c'est à toi.
Alors un petit mot de la fin, je voudrais partager avec vous une citation du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, que j'ai lu il y a quelques années et qui retrace l'histoire le trajet d'un berger qui part d'Andalousie et qui marche jusqu'aux pyramides d'Égypte pour suivre sa légende personnelle. Je vous invite vraiment à le lire, c'est vraiment un très beau moment. Donc la citation est la suivante. Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, comme c'était le cas au séminaire, on en vient à considérer qu'elles font partie de notre vie. Et alors, puisqu'elles font partie de notre vie, elles finissent par vouloir transformer notre vie. Et si nous ne sommes pas telles qu'elles souhaiteraient nous voir, les voilà mécontentes, car tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre. Voilà, je vous laisse avec ça, et merci beaucoup Marco.
Merci beaucoup Lorraine. Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur. C'est pour un...